Finalement, il était convenu avec les frères de passer assez rapidement à la partie prophétique du livre de Daniel, c'est-à-dire le chapitre 7. Mais afin de passer en douceur cette transition qui va nous amener au chapitre 7, il y a certaines parties des chapitres 3, 4, 5 et 6 qui ne sont pas dénuées d'intérêt. Alors nous glanerons quelques épis dans ces chapitres. La première réunion portera donc sur les chapitres 3, 4, 5 et 6 dont nous allons en tirer quelques versets. Je vous invite donc à lire dans le chapitre 3 du prophète Daniel, c'est-à-dire à la page 614, les versets 1 à 3, d'abord. Donc, livre du prophète Daniel, chapitre 3, page 614, les trois premiers versets. Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or. Sa hauteur était de 60 coudées, sa largeur de 6 coudées. Il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et Nebuchadnezzar, le roi, envoya un ordre pour assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils vinssent pour la dédicace de la statue que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressée. Alors s'assemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes et tous les magistrats des provinces, pour la dédicace de la statue que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressée. Et ils se tinrent devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Versets 14 et 15. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mon Dieu, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, si au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du plastérion, de la musette et toute espèce de musique, vous êtes prêt à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, à l'instant même, vous serez jeté au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Enfin, versets 28 à 30, toujours du même chapitre, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et ont changé la parole du roi et ont livré leur corps, afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et de par moi, l'ordre est donné qu'en tout peuple, peuplade et langue, quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. » Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Dans le cours de cette réunion, nous lirons les chapitres successifs, les versets qui s'y attachent.
Prenons donc un très bref instant pour introduire cette réunion, et sans que ce soit une formule banale, de la part des frères de pâturage, nous aimons accueillir tous nos frères et sœurs, tous nos amis qui sont ici cet après-midi, leur souhaiter la bienvenue. Nous avons avec nous notre cher frère M. Roger Sagne, ici à ma droite, qui n'a pas encore eu l'occasion de se joindre à nous. Nous sommes heureux de l'accueillir et de nous pencher ensemble sur la parole de Dieu que nous avons ouverte à une page bien particulière. Nous rappelons en deux mots que l'année dernière, lors des rencontres semblables, nous avons considéré les deux premiers chapitres. Premier chapitre présentant le prophète Daniel, jeune homme, pieux, fidèle, transporté à Babylone, faisant partie d'une famille noble, princière sans doute, et introduit à la cour de ce grand roi. Nous avons vu la piété, la fidélité de ce jeune homme, refusant de se conformer au monde dans lequel il vivait et qui avait tant d'attrait pour lui. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Ce jeune homme a été rendu capable de révéler au grand roi Nebuchadnezzar le premier chef de la première monarchie générale, Dieu ayant ôté son trône de Jérusalem, pauvre peuple maintenant transporté de sa terre à Babylone, a servi aux nations, dispersé par l'effet des nations, c'en était fini de son existence nationale. Dieu a confié ce pouvoir aux gentils, et la grande statue que le roi Nebuchadnezzar, le roi de la première monarchie gentille, grande monarchie qui prend place dans ce monde comme étant la dépositaire de la puissance de Dieu, ce grand roi a songé un songe que seul Daniel est à même de lui rappeler et de lui interpréter. Et dans cette grande statue, nous avons donc de façon saisissante l'histoire des quatre monarchies qui allaient se succéder sur la scène. Non seulement nous avons leur histoire donnée dans ce chapitre 2, mais loin de se borner à un récit historique, dans les chapitres 3 à 6, Dieu veut nous donner le caractère de ces nations qui vont occuper la scène du monde à l'avant-plan. Et au-delà de la portée historique de ces chapitres, Dieu veut nous apprendre des grandes leçons sur le caractère moral revêtu par ces divers empires. Pour arriver alors au chapitre 7, si le Seigneur nous en accorde la grâce, nous aurons ce sujet devant nous, pour arriver au chapitre 7, à nous donner les détails, le développement de ces nations dans leur existence les unes après les autres. Donc, histoire générale, chapitre 2, détail dans les chapitres 3 à 6 de leur caractère moral qui sera affirmé de façon saisissante et que Dieu veut souligner devant nous. Et enfin, au chapitre 7, révélé à Daniel, non plus au roi Nebuchadnezzar, mais à Daniel, parce que Dieu s'occupe toujours de ce petit résidu. Il est en scène ici dans le chapitre 3, à côté de cette monarchie impressionnante quant à sa richesse, quant au développement des arts, quant à la réussite des techniques audacieuses qu'il a déjà élaborées, quant à tout ce qu'il a rempli d'orgueil, Dieu n'oublie pas ce petit résidu. Et remarquons, ça sera une des dernières propositions que nous tiendrons en guise d'introduction, que lorsque, au commencement, cette puissance gentille est sur la scène, occupant la scène, dont Dieu nous donne un aperçu remarquable de son caractère, Dieu nous montre aussi l'existence d'un petit résidu tiré du peuple juif qui est témoin pour lui. Et ce qui a été au commencement, retenons-le bien parce que c'est une clé pour saisir l'histoire qui est devant nous, ce qui a été au commencement dans les jours de Daniel se retrouvera à la fin. Pierre nous dit qu'aucune prophétie ne s'interprète d'une manière particulière, d'une façon particulière. C'est-à-dire que dans la prophétie que nous trouvons dans la parole de Dieu, il n'y a jamais un accomplissement que nous pouvons considérer comme complet. L'accomplissement complet de ce que nous avons dans l'Ancien Testament, même s'il y a une réalisation partielle importante, mais la perspective se traduit, se montre dans l'accomplissement final lors de la crise qui va bientôt s'ouvrir et à l'issue de laquelle le Seigneur enfin prendra les rênes de son gouvernement. Donc, pour conclure, nous avons donc maintenant dans ce chapitre 3 un des grands traits des monarchies qui se sont succédées sur la scène, des grands empires, c'est-à-dire l'idolâtrie. Cela se voit de façon particulière dans l'histoire de Nebuchadnezzar qui est devant nous cet après-midi. L'homme s'étant éloigné de Dieu, tombé dans le péché, ne peut pas se maintenir à une hauteur convenable sur un terrain moral qui le maintient dans l'intelligence et le parfait équilibre dans lequel il se trouvait autrefois avant la chute. Ayant abandonné Dieu, l'homme se dégrade, divinise les passions, devient idolâtre et en même temps orgueilleux. Nous avons dans Nebuchadnezzar, à cet égard, un exemple parfait de ce qu'est devenu l'homme, tombé dans le péché. Nous avons donc maintenant devant nous ce Nebuchadnezzar qui va construire une grande statue, malgré ce qu'il a vu en songe, et tout ce que Daniel a pu lui dire quant à la fin, à l'issue de cette statue qui représente les grands empires, l'histoire du monde qui se termine par un effondrement complet, cela n'a pas servi, n'a pas eu l'effet souhaitable chez ce grand roi. Il va construire à peu près semblable une statue qui nous impressionne par ses dimensions. Statue d'or qui nous montre la richesse de la civilisation dans ces jours-là, comme il en est de la civilisation actuelle, une statue qui montre bien le développement de la technique qu'ils avaient atteint dans ces jours-là, représentons-nous, une statue de 30 mètres de hauteur, 60 coudées de hauteur, 6 coudées de largeur, 3 mètres de largeur, une statue colossale, en or, plaqué d'or sans doute, comme l'autel d'or n'est pas entièrement d'or. Mais cela nous montre bien le degré du développement de la technique dans ces jours-là. La richesse, ensuite les arts poussés à un point extrêmement remarquable, la musique sous toutes ses formes. Nous avons là des traits saisissants pour arriver en même temps à souligner l'organisation développée de cet empire. Il y a une hiérarchie dans les autorités établies, c'est un ensemble qui ne manque pas d'impressionner l'homme. Mais hélas, l'Empire, vu dans son chef, dans Nebuchadnezzar, devient ennemi de Dieu, oppresseur des fidèles qui ne peuvent pas en aucune manière associer leur foi en l'Éternel, leur fidélité à la parole de Dieu avec l'adoration de l'idole. Pour un idolâtre, en ajouter une, en retrancher une, cela n'a guère d'importance. Mais pour ces fidèles qui sont à Babylone, il était impossible de se pencher, de se prosterner devant cette statue sans profaner leur foi, sans mépriser Dieu. Et au péril de leur vie, quoi qu'il en coûte, il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, ils sont soumis à l'Empire, ne disent pas que c'est un faux roi, ne critiquent pas le roi, mais refusent de se soumettre à l'imposition du roi, aux ordres du roi qui leur enjoint d'adorer une statue de métal. Pour eux, quoi qu'il en coûte, leur fidélité nous est présentée ici avec un caractère exemplaire.
Le livre de Daniel est d'une actualité particulière pour nous dans les temps que nous vivons. D'abord parce que ce livre est rempli d'instructions morales. Et d'un autre côté, du point de vue dispensation, c'est le premier écrit divin qui nous présente les temps des nations. Et les temps des nations ont encore cours aujourd'hui. Le Seigneur parle en s'adressant à ses disciples à la fin de son ministère dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Du moment où les temps des nations seront accomplis. Ces temps subsistent encore aujourd'hui, et ils ont commencé au moment où Daniel commence son livre. Le trône de Dieu avait été à Jérusalem, et par suite de l'infidélité du peuple terrestre, Dieu a retiré son trône de son peuple. Il est maintenant appelé le Dieu des cieux, par opposition au Seigneur de toute la terre. Le gouvernement a été conféré, transféré aux gentils, dans les quatre monarchies qui se sont succédées, que nous avions considérées ensemble l'année passée, représentées symboliquement dans leur unité, comme l'homme de la terre dans la statue que Nebuchadnezzar avait vue en songe et dont il ne pouvait plus se souvenir ou qu'il ne voulait pas décrire, et que Daniel lui a décrite et ensuite qu'il lui a interprétée. Ces quatre monarchies ont été dans l'ordre Babylone, les Chaldéens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, l'Empire romain. L'Empire romain a subsisté le dernier. Pour le moment, on ne le voit pas. Il réapparaîtra sur la scène prophétique sous une forme comparable à celle qu'il a revêtue antérieurement. Au moment où le Seigneur était sur la terre, c'est l'Empire romain qui a pris la responsabilité pour l'ensemble du monde et des gentils de crucifier Christ. Dans l'intervalle, c'est la parenthèse de l'Église, l'horloge de la prophétie s'est arrêtée. Nous n'avons pas à compter le temps. Le temps ne compte pas pour nous, sauf que nous avons à le racheter pour faire pour Christ ce qu'il place devant nous. Chose remarquable, l'Empire romain sera reconstitué et sera ensuite détruit par Christ lui-même d'une manière divine, providentielle, sans instrument humain, comme la pierre qui, sans main, a détruit la statue. Nous sommes maintenant actuellement entre la première existence de l'Empire romain et nous attendons, après l'enlèvement de l'Église, la réapparition de cet empire. Dans le premier chapitre, nous avions vu l'année passée les caractères à travers Daniel et les trois jeunes Hébreux, quatre personnes fidèles à la cour du roi gentil, le caractère du résidu dans des temps difficiles. C'est le caractère que le chrétien maintenant doit revêtir au milieu d'un monde qui a exactement moralement les caractères des quatre monarchies gentiles. Je ne me rappelle plus, je crois qu'on n'avait pas donné le sens des noms de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Nous l'avons retrouvé dans un écrit. Daniel signifie jugement de Dieu. Anania, donné de Dieu. Michaël, qui est de Dieu. Azaria, celui que Jéhovah aide. Et la puissance gentile a changé le nom de ces quatre jeunes Hébreux en leur donnant des noms de divinités chaldéennes. Ceci n'a rien changé au fait que ces quatre jeunes Hébreux qui craignaient Dieu ont été fidèles dans leur cœur. La première chose qu'ils ont manifestée, c'est la séparation du mal. C'est ainsi que le service religieux pur et sans tache est celui-ci, Jacques 1, visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction, se conserver pur du monde. C'est le premier caractère que nous avons à manifester ensemble et individuellement là où le Seigneur nous place dans ce monde. Les monarchies gentiles vont revêtir divers caractères successifs, notre frère vient d'en rappeler le premier, et qu'on trouve décrit en même temps que la réponse divine d'un côté et le caractère du résidu en face de chaque caractère de l'autre côté. Ces quatre caractères se décrivent par suite de circonstances rapportées par l'Écriture dans cette première partie du livre de Daniel, dans les chapitres 3, 4, 5 et 6. Dans le chapitre 3, c'est l'idolâtrie. Dans le chapitre 4, c'est dans la personne de Nebuchadnezzar, le caractère de la bête, de la créature animale ayant perdu la conscience de sa relation avec Dieu et tombant même dans le jugement de Dieu au niveau d'une bête qui mange l'herbe des champs. Ensuite, dans le chapitre suivant, Belshazzar représente le caractère de l'impiété qui profane les instruments du sanctuaire. Et dans le chapitre 6, sous le caractère de Darius le Mède, à la cour de qui Daniel vivait et servait, l'exaltation de l'homme qui s'élève lui-même, caractère plus tard de l'Antichrist. Dans les chapitres 5, c'est plutôt le caractère de la bête romaine. Dans le chapitre 6, c'est plutôt le caractère de l'Antichrist. Ces quatre caractères sont ceux qui décrivent le système du monde maintenant du point de vue moral. La réponse divine en face de ces quatre caractères humains, c'est-à-dire les quatre formes du caractère de la bête dans la statue, cet homme de la terre, c'est que Dieu déclare sa gloire et la fait même décrire par les instruments qu'il choisit pour cela. Nebuchadnezzar, Belshazzar par sa mort, Darius même qui déclare que le Dieu de Daniel est le seul Dieu. De sorte que si l'homme montre ce qu'il est, se dégrade, descend de plus en plus moralement dans l'échelle spirituelle des valeurs, Dieu déclare qu'il est le même et sa gloire, il ne la donne pas à un autre. Au milieu de ces circonstances, le résidu qui a été mis à part pour Dieu dans le premier chapitre, qui est le révélateur des secrets dans le second, ce résidu-là trouve dans chaque circonstance une place de fidélité adaptée à l'épreuve. Les trois jeunes Hébreux, dans le chapitre 3, reconnaissent l'autorité du roi et ne mettent pas en cause l'autorité de Nebuchadnezzar, mais refusent avec la même énergie de se soumettre à un ordre humain qui est en contradiction avec l'autorité divine. Rien ne les fera céder pour adorer une statue d'or qui n'avait point de place dans leur cœur. Le prix qu'ils payent, c'est la fournaise de feu ardent. Dans le cas de Nebuchadnezzar, qui dans le chapitre suivant s'élève dans son cœur et perd pratiquement la conscience de sa relation avec Dieu, c'est Daniel qui est choisi par Dieu pour révéler le jugement qui allait atteindre ce roi orgueilleux. Dans le chapitre de Belshazzar et de l'orgie de l'impiété, la main sur le mur écrit le jugement du roi et Daniel à nouveau interprète ce jugement et son interprétation. Et enfin, dans le dernier chapitre, le chapitre 6, lorsque Daniel, par fidélité, se soumettant à son roi et ne voulant pas céder pour que sa prière s'adresse comme il l'avait fait auparavant trois fois le jour, connaît la fosse aux lions et en est délivré. Voici la première partie du livre de Daniel, les six premiers chapitres. La première, l'introduction. Le deuxième, la statue. Les chapitres suivants, 3, 4, 5 et 6, les quatre caractères moraux des monarchies. Dans les chapitres 7 à 12, c'est-à-dire les six derniers, nous avons l'histoire maintenant, par des révélations prophétiques faites à Daniel le prophète, de ce que serait le développement des monarchies gentiles pendant le temps des nations. Dans le chapitre 7, c'est l'histoire de la puissance occidentale. Dans le chapitre 8, c'est l'histoire de la puissance orientale. Si l'on ose dire, les points cardinaux étant pris comme centre, avec Israël, la terre d'Emmanuel, au centre de la terre. Il y a l'ouest, l'est, le nord et le midi. Au chapitre 8, c'est l'histoire de la puissance orientale. Au chapitre 9, avec la déclaration de Daniel, son humiliation et sa prière, son intervention en médiation à l'égard du peuple, nous avons la révélation du déroulement de l'histoire de la puissance occidentale à la fin du chapitre 9. Puis dans les chapitres 10, 11 et 12, c'est de nouveau l'histoire de la puissance orientale et la conclusion dans le chapitre 12 de toute cette histoire du temps des gentils.
Parmi ces caractères moraux des nations, il vaut la peine de faire dès le début une remarque, c'est que ces rois ont toujours un contact avec la religion. Il n'y a aucun de ces rois qui supprime Dieu avec un petit d, mais tous ont un contact avec le sens religieux de leurs subordonnés. Ce sens est tellement ancré que nous retrouvons ceci aujourd'hui, puisque ces caractères moraux des nations se manifestent d'une façon toujours plus précise de nos jours jusqu'à l'apostasie finale. Quel est le sens de la religion pour ces chefs d'État? D'abord, il y a un caractère essentiel, c'est que la religion, pour un chef d'État, veut séparer du vrai Dieu pour attacher au monde. Nous l'avons signalé tout à l'heure dans le fait que le roi Nebuchadnezzar a voulu attacher au monde Daniel et ses trois compagnons. Et le roi Nebuchadnezzar a tout fait pour cela. La religion veut donc séparer de Dieu pour attacher au monde. C'est une solution de facilité. Deuxièmement, la religion est utilisée pour unir. Le mot « religion » vient de « relier », vient de « unir ». C'est un élément que Satan utilise pour unir les hommes les uns aux autres. Nous le voyons dans les premiers versets que nous avons lus tout à l'heure du livre de Daniel, du chapitre 3e, c'est que cet immense empire de Nebuchadnezzar, et il faut comprendre ce que représentait la gestion d'un tel empire alors qu'il n'y avait pas tous les moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui, cet immense empire était formé de peuplades très différentes. Et Nebuchadnezzar a cette idée remarquable sur le plan politique d'unir toutes ces peuplades par un moyen. Et ce moyen, c'est la religion. Mais remarquons que si un chef d'État veut, et c'est l'œuvre de Satan que nous voyons là, n'est-ce pas, que si un chef d'État veut séparer de Dieu et unir au monde, et d'autre part, relier les uns aux autres, la religion sera toujours et toujours l'adoration de l'homme. Et nous l'avons d'une façon particulière dans le fait que cette statue, cette immense statue est bâtie et devient un sujet d'adoration. Nebuchadnezzar n'était pas très content, nous pouvons bien le penser, des révélations de Daniel concernant son rêve tel qu'il est décrit au chapitre 2e. Parce qu'il représentait quelque chose d'intelligent et d'éminemment glorieux, c'était la tête et une tête d'or, mais lui a voulu, comme centre de sa religion établie par lui-même, que toute la statue soit d'or et que tout l'homme soit glorifié. C'est le contraire même de la pensée de Dieu. Nous avons une image tout à fait semblable et qui éclairera peut-être encore d'une façon plus précise cette pensée dans la religion qui a été établie jadis par Jéroboam. Au premier livre des rois, au chapitre 12e, nous avons la très triste histoire du schisme. Et pour que ce schisme soit consommé, et pour que cela ait dit textuellement dans ce texte, dans les versets 26 à 33, et pour que les fidèles de Jéroboam ne soient pas tentés de retourner au vrai Dieu, alors Jéroboam établit une religion nouvelle. Il y a deux idoles, des veaux d'or, qui sont établies, et le peuple est invité à offrir des sacrifices sur l'autel. Notons que cette religion établie par Jéroboam est très peu différente de celle établie par Moïse. Elle se rapproche beaucoup de cette religion-là, mais dans son fondement, elle est diamétralement opposée. Et c'est ainsi que cette religion de Jéroboam sépare le peuple de Jérusalem, sépare du vrai Dieu, pour l'unir à Jéroboam lui-même. C'est la glorification de l'homme, et d'autre part que cette religion nouvelle unira tout ce royaume d'Éphraïm contre le royaume d'Israël. Voilà un petit peu le sens de la religion de l'homme en opposition avec la pensée de Dieu.
La religion atteindra son apogée dans la deuxième bête d'Apocalypse 13, l'homme de péché, qui se présentera comme étant Dieu et s'assiera au temple de Dieu. Nous aimerions, sans arrêter le cours des pensées sur le champ prophétique, revenir un peu sur le caractère de cet homme de Dieu. Sans doute cela a été relevé ici, lors de la précédente étude. Daniel n'était-il pas à son époque, selon 2 Timothée 2, un vase à honneur sanctifié et par conséquent utile au maître? Sanctifié, il demande à se conserver pur du monde, le passage de Jacques a été relevé, mais en même temps, il y a chez cet homme de Dieu la reconnaissance de l'autorité établie. Il demande au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. D'une part, la fidélité quant au droit de Dieu, d'autre part, la soumission à l'autorité alors établie. Un peu plus loin, au chapitre 2, alors qu'il s'agit d'expliquer et d'abord de faire connaître le songe du roi, ensuite de l'expliquer, il répond avec prudence à Arioch, verset 15 du chapitre 2, avec prudence et sens. Cet homme de Dieu, là encore, agit avec une très grande sagesse et il peut donner, Dieu lui donnera la révélation du secret. Il se mettra à genoux avec ses compagnons, le secret sera révélé à Daniel, mais c'est avec prudence et avec sens. C'est très beau cela. Par contre, alors, dans le chapitre 5, quand il est devant Belsazar, alors que ce roi impie fait boire ses courtisans dans les vases d'or emportés du temple de Jérusalem, nous voyons que Daniel annonce au roi, on a parlé tout à l'heure de la main qui écrivait sur la muraille, le jugement inexorable qui va tomber sur cet empire. Et en effet, en une nuit, Belsazar fut tué, celui qui roidit son cou sera brisé subitement et il n'y a plus de remède. Mais là, et ne pouvons-nous pas dire que Daniel répond au sceau selon sa folie? Ce n'est pas la même attitude que celle qu'il a devant Nebuchadnezzar. L'impiété de Belsazar amène de la part de Daniel une fermeté et il annonce au roi le jugement terrible qui va tomber sur lui-même et sur son royaume. Tu as été pesé à la balance, tu as été trouvé manquant de poids. Avec Darius, alors au chapitre 6, il y a là encore une autre attitude. On l'a souligné tout à l'heure, Darius, c'est l'exaltation de l'homme. Et Daniel ouvre sa fenêtre et prie, ses yeux sont tournés vers Jérusalem, la cité bien-aimée. Il pense à cette ville, son cœur y est, et malgré la rigueur du décret du roi, Darius, il prie quand même, il ne se lasse pas, il brave le décret du roi. Là, c'est il obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons donc là, dans ces différentes attitudes de cet homme de Dieu, une instruction pour les temps actuels, chers frères et sœurs, et particulièrement les jeunes aujourd'hui. Il est toujours possible, chers jeunes amis, nombreux ici, de vous conserver purs du monde. Le monde ne s'est pas amélioré depuis la chute. Nous savons bien dans quel contexte vous vivez et nous pensons beaucoup à vous sur nos genoux dans la prière. Mais ce que le Seigneur a été pour ses témoins d'autrefois, il le sera pour vous si vous désirez le servir et lui être fidèle, qu'il vous en accorde la grâce. Le secret, c'est d'être attaché à Christ. Et le secret est dans l'amour pour le Seigneur. Si vous l'aimez, vous le servirez avec fidélité et il vous donnera la force de résister aux tentations diverses qui vous entourent, aux pressions si terribles et qui se font jour aujourd'hui, immoralité. Et ce n'est pas nouveau, chapitre 4 de la Genèse nous montre que Satan avait déjà organisé le monde entre la musique, les arts, les manufactures, tout ce qui caractérise la sphère de ce monde sans Dieu. Encore un mot avant de terminer, pour en revenir alors au côté prophétique, nous rappelons ce qu'a écrit un de nos conducteurs dans le messager de 1904, sauf erreur, un savant français, Appert, aurait retrouvé donc, à El Mokata un emplacement qui aurait pu servir de piédestal à cette colossale statue. C'est un détail historique, bien sûr. Et rappelons encore que ces quatre parties de la statue correspondent aux quatre bêtes, enfin nous le verrons si le Seigneur le permet, du chapitre 7 et dans le même ordre. Ce sont là les quatre empires, en effet, qui se sont succédés, et le Seigneur est né sous l'Empire romain, alors existant, il était, c'est Apocalypse 17, la bête était, puis nous savons que les hordes barbares ont mis fin à cet empire, qui s'est scindé en deux, d'ailleurs, les deux jambes de la statue, empire occidental et oriental, et il est né sous Ponce Pilate, l'Empire romain était là, et il n'est pas, elle n'est pas. Elle a été brisée dans sa puissance, mais elle reparaîtra sur la scène, et alors c'est le sujet du chapitre 13 de l'Apocalypse, premier paragraphe, avec la forme impériale, une tête et 10 rois, n'est-ce pas ? Elle reparaîtra dans sa forme impériale. Ce sera un temps terrible qui nous amène à la deuxième demi-semaine de Daniel. Encore ici, ces paroles solennelles, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume par la puissance de ma force, c'est l'orgueil de l'homme à son plus haut degré. Et quand nous pensons, quand nous lisons ce que Dieu en dit, qu'est-ce que l'homme ? Finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines. Ici, cet homme déploie un orgueil incommensurable, mais il sera dépassé en cela par la bête, l'Antichrist, qui s'assiera lui-même au temple de Dieu et se fera adorer comme étant Dieu. Ce sera un temps terrible pour le monde et pour le résidu juif.
Soulignant que l'Esprit de Dieu considère toujours le monde tel qu'il est et qui a pris son véritable caractère depuis la croix. Le chef de ce monde vient, dit le Seigneur. Satan était déjà sur la scène, mais c'est lui qui, depuis la croix, est devenu le chef de ce monde, marqué par les caractères que nous trouvons dans ces chapitres. Le chef de ce monde vient et n'a rien en moi. L'Esprit de Dieu ne laisse jamais planer aucune équivoque sur le caractère du monde dans lequel nous vivons, quelle que soit la figure, l'aspect qu'il revêt. L'Esprit de Dieu, d'autre part, n'oublie jamais d'affirmer que nous ne sommes que des étrangers dans ce monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Dans nos pays, dans nos contrées, et sommes-nous assez reconnaissants pour cela, nous sommes au bénéfice de ce qui a été appelé la constituante en 1789, c'est-à-dire la proclamation des droits de l'homme. Nous vivons sous un certain libéralisme qui nous permet de penser, de croire comme nous l'entendons, selon notre désir, selon notre génie, disait quelqu'un. L'homme n'est pas asservi, il a acquis des libertés qui sont d'un très grand prix dans nos pays d'Europe occidentale, avec des gouvernements appelés démocratiques. Mais sommes-nous assez reconnaissants pour cela? N'oublions pas que dans beaucoup de pays, et la carte de la liberté ne cesse de se réduire. Nous ne devons pas oublier cela non plus. Dans beaucoup de pays, nos chers frères souffrent pour leur foi, car il y a là une véritable religion, la religion du matérialisme, qui s'impose comme principe dominant de faire disparaître tout ce qui est de Dieu. Le principe d'un des grands fondateurs de ce système, c'est celui-ci, l'abolition de la religion. Retenons bien cela, l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire des peuples est une nécessité en vue de son bonheur réel. Ça, c'est le principe des sociétés matérialistes qui font de ce matérialisme une véritable religion, l'adoration de l'homme. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire des peuples. Cette abolition est une nécessité impérieuse en vue d'assurer le bonheur réel des peuples. Affirmant que la religion est un véritable opium qui endort l'homme et qui lui permet, et qui permet ainsi de la servir aux pires conditions à laquelle on veut le soustraire. Mais nous savons bien, chers amis, que tout cela est sorti de l'enfer, hier qu'il en était au temps de Nebuchadnezzar, car le système en place n'accorde aucune audience à ce qui le désavoue, à ce qui est marginal, comme on le dit, à ce qui porte la moindre atteinte à l'ordre établi, à la puissance établie, au régime établi. Toute ombre jetée sur ce tableau est insupportable pour l'homme, d'où les persécutions les plus violentes qui s'abattent sur nos frères dans ces contrées. Nous ne saurions accorder trop de place dans nos réunions de prière aux supplications en faveur des saints qui souffrent aujourd'hui, comme les croyants fidèles, le petit résidu de ces jours-là, qui est fidèle, dont Dieu s'occupe, mais qui passe par la fournaise comme il en a été dans ces jours-là. Retenons que nous vivons dans des contrées, dans des pays où nous jouissons d'une liberté très appréciable que Dieu nous a maintenue jusqu'ici. Le chiffre de l'homme, ce soit ici, notre frère vient d'indiquer quelques éléments sur lesquels on reviendra sans doute, mais remarquons la similitude entre ces éléments. Nous avons 60 coudées, 6 coudées, le chiffre 6, introduit dans ce qui caractérise cette statue. Et en même temps, c'est une puissance sans doute impressionnante, mais elle ne dépasse pas ce qui est de l'homme. Nous avons Nebuchadnezzar, le roi. Nebuchadnezzar, le roi. L'Esprit de Dieu insiste sur l'élévation de cet homme. Et cette expression revient 6 fois dans le chapitre qui est devant nous, chapitre 3. 6 fois, Nebuchadnezzar, le roi, qui construit, qui fait édifier une statue de 60 coudées de hauteur, de 6 coudées de largeur. Comme il y a là une similitude qui nous amène à cette précision dans l'Apocalypse, ce qui sera demain sur la scène de façon effroyable, c'est-à-dire la marque imposée aux hommes, c'est-à-dire 666 sur leur front et sur leur main droite, c'est-à-dire toute activité, de quelque ordre qu'elle soit, intellectuelle ou matérielle, sera soumise à ce pouvoir établi, affreux, persécuteur des saints. Le sang courra de façon extraordinairement saisissante dans ces jours-là. Le sang courra à flot. Les témoins de Jésus qui nous suivront sur la scène. On pourrait se dire, mais comment est-ce possible qu'une civilisation aussi avancée que celle que nous connaissons puisse dégénérer dans une situation telle que celle-là, en revenir à l'idolâtrie, puisque cet homme s'assiera au temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu et exigeant l'adoration d'un homme, puisqu'il placera l'image de la bête dans le temple et ordonnera qu'elle soit adorée. Sous peine de mort, il n'y aura pas de compromis possible. Cela ne doit-il nous étonner, chers amis? C'est l'histoire de l'homme. Et cette histoire nous est donnée. Pourquoi? Dans quel but? Est-ce que c'est pour nous intéresser à l'histoire passée et aux aspects prophétiques qu'elle peut avoir? Oui, sans doute, mais l'effet pratique, quel est-il? Qu'est-ce que Dieu poursuit en nous parlant de cette manière, en nous instruisant comme il veut le faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Dieu nous considère comme les dépositaires de ses secrets. Dieu ne révélait pas à l'autre ce qu'il allait faire, mais bien Abraham, qui était son ami, qui vivait en communion avec lui. Pourquoi Dieu nous parle-t-il ainsi? Sans aucun doute, sans qu'il y ait la moindre hésitation, pour que nous discernions le caractère du monde dans lequel nous vivons et que nous en soyons gardés. Gardés de ses pièges, gardés de tout ce qui attire le cœur dans ce monde, de tous les liens qui se tissent si facilement entre nos cœurs et le monde, parce que nos cœurs aiment le monde.
Que Nebuchadnezzar avait reçu de Dieu lui-même le pouvoir absolu lorsque le trône de Dieu a été transféré aux gentils. C'est dans l'interprétation de l'écriture sur le mur par Daniel à Belshazzar que Daniel rappelle à Belshazzar ce qui avait été donné à son père Nebuchadnezzar de la part de Dieu. Chapitre 5, verset 18, « Au roi, le Dieu Très-Haut donna à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume et la grandeur et l'honneur et la majesté. » Et le verset suivant, « Il tuait qui il voulait et il conservait en vie qui il voulait. Il exaltait qui il voulait et il abaissait qui il voulait. » On peut se poser la question de savoir ce que Nebuchadnezzar a fait de ce pouvoir absolu qui lui a été confié. Et nous avons la réponse dans les passages qui ont été lus tout à l'heure pour notre méditation. Chapitre 3, le verset 6. En face de cette idolâtrie, cette grande statue de 60 coudées, Nebuchadnezzar va user de son pouvoir absolu pour obliger tous les hommes à se prosterner dans la statue sous peine de mort. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'heure même au milieu d'une fournaise de feu ardent. Personne ne peut supporter l'élévation. Personne ne peut supporter le succès. Un gentil, pas plus qu'un chrétien d'ailleurs. Nous avons besoin d'être gardés humbles dans la présence de Dieu. Nebuchadnezzar a reçu le pouvoir, il en a usé et abusé. Dans la violence. Mais il a aussi fait autre chose. Il a utilisé la seconde arme de Satan. La première, c'est la violence. La deuxième, c'est la séduction. Et quelle est la forme de séduction que Nebuchadnezzar a utilisé pour tenir ses peuplades entre ses mains? Chose extraordinaire, la même que le chef de ce monde maintenant utilise dans la deuxième partie du XXe siècle, la musique. Sous toutes ses formes, ne nous laissons pas séduire. La musique en elle-même n'est pas mauvaise. C'est un instrument dans la bouche de l'Église pour chanter les louanges de Dieu. Le cantique nouveau est chanté. Ce sont les seules personnes qui chantent par les rachetés célestes qui entourent le trône. Lorsqu'on est heureux, on chante. Colossiens 3. Les hymnes, les cantiques spirituels, expriment la joie du cœur envers Dieu et envers Christ. Mais, comme notre cher frère M. Chaudier nous l'a souvent enseigné et souvent rappelé, la musique produit des sentiments, touche le cœur sans passer par la conscience, laisse la conscience tranquille et produit des sentiments naturels. De sorte que la musique peut être un instrument puissant dans la main de Satan pour nous faire échapper au sentiment, à la réalité de notre responsabilité. Et la musique avait toute sa place ici pour faire adorer la statue. Actuellement, de plus en plus dans l'Europe occidentale, à la suite des États-Unis, nous sommes dans le ciel de la musique. On ne peut pas se déplacer dans un parking, dans un autobus, dans un train, sans être assailli de musique. Tout le monde utilise la radio et tant d'autres choses. On n'est jamais avec soi-même, effectivement. Si un homme était avec soi-même, il aurait une chance de se rendre compte de sa position devant Dieu. Satan va bien l'endormir par la musique pour le faire se réveiller lorsque ce sera trop tard. Voilà le danger de la religion selon l'homme. C'est-à-dire, en fait, comme notre frère M. Rossel le rappelait tout à l'heure, cette religion humaine, c'est de nous séparer de Dieu.
Je parlais tout à l'heure des deux religions. La vraie religion pour Dieu, celle qui unit dans le sentiment du péché et du néant de l'homme, et de la grandeur de Dieu et de la relation que Dieu établit avec l'homme. C'est une religion céleste. Et il y a la religion matérialiste qui est faite pour la terre. Remarquons que dans cette statue qui est construite par Nebuchadnezzar, c'est une statue grandiose et là, l'immensité pour elle, et là, la qualité du matériel qui est utilisé, matériel le plus précieux, l'or. Il est dit au verset 14e, c'est Nebuchadnezzar qui parle, il parle de « mon Dieu, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée, tout est de l'homme et tout est pour la terre. » Et c'est bien la qualité même de la religion matérialiste. En opposition avec cette religion-là, il y a une religion céleste. Un des exemples les plus extraordinaires, peut-être, qui soit donné de cette religion céleste, c'est celle qui est citée dans Hébreux 11. Abraham a reçu en promesse une terre étrangère, en héritage, une terre étrangère. Il devait donc se déplacer pour aller dans le pays de la promesse. C'est ce que nous voyons au verset 9e du chapitre 11 des Hébreux. Mais la chose la plus étonnante, c'est que Abraham, cet homme de foi, ne s'est pas contenté de vivre sur cette terre-là en pensant que c'était vraiment l'héritage qu'il devait recevoir. Mais il est dit qu'il demeura sous des tentes avec Isaac dans cette terre qui était pourtant la terre de la promesse. Dieu lui avait promis cette terre, il y habitait, mais il considérait même cette terre qu'il avait reçue de Dieu, il la considérait comme quelque chose de très passager. Il y vivait sous des tentes parce qu'il attendait la cité qui a les fondements de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Non seulement Abraham obéit, non seulement il va dans la terre de la promesse, mais il vit dans cette terre de la promesse parce que c'était un endroit qui était relié à la terre. Il y vit comme un étranger parce qu'il pense à la cité céleste. Et voilà la grande différence qu'il y a entre la religion de la terre et la religion du ciel. Remarquons encore une chose. Ce petit résidu dont on a parlé tout à l'heure et dont on a énuméré quelques-unes des qualités morales, ce petit résidu ne peut vivre en paix avec la religion de la terre. C'est une chose impossible. C'est ce que le Seigneur disait déjà, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il y a donc une opposition obligatoire, nécessaire, entre ces deux religions, et il n'y a pas de compromis possible. C'est pourquoi nous sommes invités à réaliser une qualité particulière de cette religion céleste, de cette religion divine.
c'est l'espérance. L'espérance fait partie de ces qualités essentielles du chrétien parce qu'il ne vit pas sur la terre pour la terre, il vit sur la terre en fonction du ciel. De la même manière que le peuple d'Israël n'a pas vécu dans le désert pour le désert, mais en fonction de la promesse qui lui était donnée d'arriver dans le pays de Canaan. Voilà des oppositions totales et complètes. Et remarquons encore une chose, est-ce que le croyant peut facilement faire admettre cette différence à un non-croyant ou à un croyant lié à la religion de la terre? C'est pratiquement pas possible. Comme on vient de le dire tout à l'heure, il faut qu'il y ait un travail de conscience personnelle. Et remarquons, cette réponse qui est tellement admirable, on ne l'a pas lue, mais je le signalerai quand même au verset 16, la réponse admirable de ce résidu qui est en proie à l'opposition du monde, il est dit, il n'est pas nécessaire que nous répondions sur ce sujet. Autrement dit, le résidu qui est représenté par les trois compagnons de Daniel, ce résidu-là estime que la conscience de Nebuchadnezzar n'est pas préparée pour comprendre cette différence essentielle entre l'amour de la terre et l'amour du ciel. Ce n'est pas possible. Et le fait que cela n'était pas possible, c'est que Nebuchadnezzar, juste avant, à la fin du verset 15e, là où s'est terminée notre lecture, dit « Qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Nebuchadnezzar, tellement imbu de la puissance et de la grandeur de l'homme, ne peut pas imaginer qu'il y ait une puissance qui puisse s'opposer à la sienne. Dans ces conditions-là, la conscience n'étant pas touchée, les compagnons de Daniel, qui représentent ce résidu fidèle, ne peuvent rien dire et ne peuvent rien faire. Il faudra attendre la démonstration des faits eux-mêmes, c'est-à-dire l'intervention puissante de Dieu dans la délivrance de la fournaise.
Les eaux, je serai avec toi, mais par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Soulignons qu'au verset 17, déjà ces trois témoins affirment, et c'est la foi qui les fait parler, la relation qu'ils ont avec Dieu, l'intimité, la communion. Notre Dieu peut nous délivrer, il en a le pouvoir. Et Nebuchadnezzar lui-même dira alors au verset 28, « Béni soit le Dieu de Shadrach, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs, qui se sont confiés en lui. » Chers frères et sœurs, la même foi est aujourd'hui, peut-être aujourd'hui réalisée par les croyants, nous confier en Dieu. Et c'est une affaire de tous les jours. La foi, elle ne se définit pas. Hébreux 11, 1, elle est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une définition de la foi. C'est un état intérieur et nous sommes exhortés à marcher par la foi. On vient de nous rappeler l'exemple d'Abraham et il y en a beaucoup d'autres. Ne perdons jamais de vue notre appel céleste. L'Église n'est pas du monde, elle est du ciel, son origine est céleste, et plus tard elle descendra du ciel ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21. Gardons-nous de tout ce que le monde peut nous offrir, et vivons dans la crainte de Dieu. Ne sortons jamais de la présence de Dieu. Le grand secret pour être fidèle, comme ces témoins d'un autre temps, aujourd'hui même, c'est de rester toujours dans la présence de Dieu. Dès que nous sortons de cette présence, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, c'est sûr. Pierre se chauffait près du feu L'exemple, en passant, il n'avait rien à faire là. Satan l'a pris. Il a renié 3 fois son maître. Il n'était pas à sa place. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais il y a un passage dans la prière sacerdotale du Seigneur en Jean 17 qui est fondamental. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et l'Esprit de Dieu, dans la première épître de Jean, nous rappelle de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous n'avons pas à établir une liste, et chacun doit savoir ce qui déplaît au Seigneur et ce qui lui plaît, ce qui le glorifie ou ce qui le déshonore. Et la communion avec Dieu, c'est une chose, c'est comme la sensitive, est facilement interrompue. Eh bien, imitons ces témoins qui ont aimé leur vie, qui n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Et dans l'Apocalypse, on retrouvera alors des témoins qui mourront aussi pour rester fidèles à Christ sous le règne de la bête. Ils n'auront pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Nous l'avons rappelé dans nos contrées, des privilèges, des temps faciles, des autorités favorables. Est-ce que nous sommes assez reconnaissants, chers frères et sœurs, pour cela? Prions beaucoup pour les autorités, l'autorité établie, Romains 13, nous devons la reconnaître, qu'elle soit monarchique, républicaine ou autre. Seule autorité, c'est ce qui retient de Thessaloniciens 2. Et il y a aussi celui qui retient, c'est l'Esprit de Dieu, avant que le mal ne déborde et qu'il n'y ait plus de retenue et que l'énergie d'erreur soit envoyée. Alors ceux qui n'auront pas cru à l'évangile de la grâce ne pourront plus croire. Mais le Seigneur opérera par l'évangile du royaume, Apocalypse 7, une multitude des nations et dans le paragraphe précédent, des 12 tribus, des juifs, seront sauvés sur la base de l'œuvre accomplie à la croix. Toujours, c'est la base pour les élus de tous les temps. Mais il y en aura encore après nous, et qui connaîtront ce qu'a connu ici ce résidu, la souffrance jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Exemples qui sont devant nous, et dans ce qui vient d'être rappelé, nous avons 2 situations tout à fait opposées. Celles d'hommes qui ont une méconnaissance complète de Dieu quant à son autorité et quant à ses droits vis-à-vis de tout homme sur la face de la terre. Lorsque nous lisons ce qui concerne Nebuchadnezzar, Belshazzar et Darius, nous tremblons devant Dieu que des hommes puissent oser avoir ce comportement. Alors, nous cherchons d'où cela peut venir. Et cela vient simplement du fait que Dieu est méconnu et que Dieu n'est pas écouté. Et de l'autre côté, nous avons des hommes avec une intelligence particulière, une puissance de témoignage, parce qu'ils ont vécu dans la communion avec Dieu, parce qu'ils se sont attendus à lui, parce qu'ils ont eu avec lui des entretiens particuliers, parce qu'ils vivent de la force que leur Dieu leur donne. Et nous aimerions citer un exemple qui nous montre bien que on n'entre pas dans les choses de Dieu par le côté intellectuel. Et ce qui nous est rappelé maintenant, c'est quelque chose qu'il fait bon entendre, certainement, mais s'il était quelques âmes ici présentes qui pensent qu'il est bon de savoir les choses qui sont exprimées, mais qui n'aient pas le souci d'écouter ce que Dieu dit, dans la conscience que Dieu lui-même parle maintenant et s'adresse directement à chacun, alors il n'y aura pas d'entrée possible dans ce que Dieu veut présenter maintenant et dire à chacun. Une histoire très simple, c'est celle de Naaman en 2 Rois 5, où nous trouvons un homme invité à entrer justement en contact avec Dieu Et entrant en contact avec Dieu, il connaît une intelligence qui ne lui appartenait pas jusque-là. Il commence par réaliser que on n'offre pas des holocaustes et des sacrifices à n'importe qui. Il est un Dieu auquel il convient d'offrir, un seul. Et Naaman est mis en contact avec ce Dieu-là, de sorte qu'il est conduit lui-même à conclure, ton serviteur, fin du verset 17, n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. Et puis nous voyons que il reçoit par ce contact-là, et parce qu'enfin, grâce à ses serviteurs, des hommes simples, nous avons besoin d'écouter la simplicité souvent. Il en vient enfin, à cause de leur intervention, à écouter ce qui lui est dit par le prophète. Alors l'intelligence lui est donnée qu'on ne peut pas non plus entrer dans des compromis, cela a été évoqué tout à l'heure. Et il réalise que ce qu'il avait l'habitude de pratiquer, il ne peut plus le pratiquer avec la liberté et l'inconscience avec lesquelles il le pratiquait jusque-là. Et au verset 18, « Et quand ceci, l'Éternel pardonne à ton serviteur, quand mon Seigneur entrera dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, qu'il s'appuiera sur ma main, et que je me prosternerai dans la maison de Rimmon, que l'Éternel, je te prie, pardonne à son serviteur en ceci. » Nous avons ici la preuve que c'est l'écoute de la parole de Dieu, ce contact avec Dieu lui-même, la connaissance de son caractère de seul vrai Dieu qui donne l'intelligence pratique. Et il fait bon écouter ce que nous entendons en réalisant bien que Dieu nous parle, que nous avons le contact avec le seul Dieu vivant, et que si nous écoutons seulement pour saisir les choses d'une manière intellectuelle, nous n'aurons pas cette intelligence-là. Mais Dieu la donnera si nous écoutons avec le cœur, en lui reconnaissant l'autorité qui lui appartient.